Aménage-toi. Ménage-toi sur Radio Zoo 93.8. Un moment où nous aimerions rencontrer avec vous d'autres femmes. Un moment où nous échangerons les livres que nous avons lus, les films et les spectacles que nous irons voir. Ménage-toi sur Radio Zoo 93.8, une émission proposée par le Collège du Travail de Genève, tous les mercredis en direct de 10h à 12h. Écoutez, ménage-toi et avec vous jusqu'à midi, Alda, Jacqueline et Marianne. Aujourd'hui dans ménage-toi, Nanick de Rougemont. Ménage-toi du temps pour lire et aller au cinéma, un livre, un film, Couleur pourpre. No end for me. L'agenda de Ménage-toi, des activités, des rendez-vous, des informations. Human relationships are just so still today. Femme et nourriture, les groupes d'aliments. We have to do. téléphoner en direct au 023 depuis la Suisse 50 40 51 41 ou encore nous écrire à Ménage-toi, Collège du Travail, 11 rue des Maraîchers, 1205 Genève.
Voyez-vous pas la guerre comme un chien dans les prés? Il paraît qu'on doit la terre et taire que vous mourrez. Défense de dire la guerre peut s'éviter dans vos mains. Prenez au peuple la guerre immense des lendemains. Jaurès ou Péri, la guerre, ceux qui parlent d'avenir, il lui faut pour son enfer. Les condamner à périr, il faut le feu de la guerre pour sauver les champs de froid. Il faut à ceux qui s'en fèrent la force faite le droit. Un moment vient où la guerre, afin que n'éclate un jour le bruit maudit des affaires, devient l'unique recours. La guerre, la vieille guerre de 14 à 39. Nos ministres lui font faire un bel uniforme neuf. Est-ce bon cœur que la guerre auprès de ne plus régner? Et leur épouvante espère le napalm et l'araignée. Du moment que c'est la guerre, tu es décide de tout. La loi de l'incendiaire est la loi sur les genoux. Les désastres de la guerre brouillent les pas du passé. Ce qui tue avant se perd dans l'éclat du sang versé. Ce qui tue avant se perd dans l'éclat du sang versé.
Vous écoutez Ménage-toi sur Radio Zoo 93.8. Aujourd'hui, nous recevons Nanick de Rougemont.
Bonjour. Ce matin, à Ménage-toi, deux invités, Nanick de Rougemont et Jacqueline Berenstein-Wavre. Jacqueline Berenstein-Wavre, qui est aussi animatrice de Ménage-toi, qui, avec moi, nous allons interviewer Nanick de Rougemont. Mais pour commencer, Jacqueline Berenstein-Wavre va vous présenter le groupement Femmes pour la paix de Genève. Et ensuite, nous passerons une petite demi-heure en compagnie de Nanick de Rougemont, aussi membre du mouvement Femmes pour la paix.
Alors, à Genève, le mouvement Femmes pour la paix a été créé en 1977. Suivant l'exemple des femmes d'Irlande qui furent les premières à oser marcher contre le courant. Les buts essentiels, donc, de notre mouvement de Genève, mais aussi de toute la Suisse, parce qu'il y a des mouvements Femmes pour la paix dans les différents cantons de Suisse, c'est d'inviter la communauté humaine à prendre conscience du danger extrême des moyens de destruction de masse, d'encourager les habitants de notre pays à s'engager pour la paix en leur rappelant qu'une politique de justice et de solidarité avec les plus défavorisés est la meilleure garantie, et de suggérer des actions concrètes, de les organiser ou de se joindre à celles proposées par d'autres mouvements et tendances ayant des buts communs. Les Femmes pour la paix de Genève sont environ 100 à 150 qui payent une petite cotisation, et naturellement, toutes les femmes qui nous écoutent sont invités à devenir membres de notre association. Et nous avons un comité qui a ceci d'original, c'est qu'il comprend des femmes de toutes les tendances, des femmes de gauche, disons de partie du centre, et des femmes catholiques et des femmes protestantes. Ça, c'est comme ça que nous avons pensé qu'il faut d'abord réaliser une paix entre nous. Je voudrais maintenant vite donner une définition de la paix, parce que tout le monde en parle et on ne sait pas très bien ce que c'est. Et cette définition, qui est aussi acceptée par notre mouvement, vient entre autres du Comité international de la Croix-Rouge. La paix n'est pas seulement l'absence de guerre, mais aussi un processus dynamique de collaboration entre tous les États et les peuples, collaboration fondée sur le respect de la liberté, de l'indépendance, de la souveraineté nationale, de l'égalité, des droits de l'homme, ainsi que sur une juste et équitable répartition des ressources en vue de satisfaire les besoins des peuples. Et nous insistons surtout sur ce processus dynamique. Et c'est dans ce processus dynamique de construction de la paix que les Femmes pour la paix de Genève, bien humblement, aimeraient s'inscrire.
Vous écoutez Ménage-toi sur Radio Zone 93.8.
Ce matin, nous sommes en compagnie de Nanick de Rouchement. Et pour Ménage-toi, Alda et Jacqueline vont avec vous, nous allons faire, vous les auditrices, nous allons faire connaissance de Nanick de Rouchement, une femme écologiste et pacifiste, si nous voulons vraiment lui mettre des étiquettes, si nous y tenons vraiment. Une femme bien décidée à regarder le monde en face, c'est quelqu'un, je crois, qui aimerait bien faire bouger ces grosses montagnes que sont la fatalité et la résignation face aux guerres et aux désastres écologiques. Nanick de Rougemont, vous pouvez lui poser des questions en direct au numéro 023 50 40 51 41. Tous vos appels sont les bienvenus. Je vous rappelle que vous écoutez Ménage-toi, une émission sur Radio Zone 93.8 MHz. Nanick de Rougemont, vous faites partie d'un groupement pacifiste qui s'appelle Femmes pour la paix à Genève, que Jacqueline vient de présenter. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette direction ?
Ce qui m'a poussée dans cette direction, c'est la sensation depuis, mettons, une quinzaine d'années, que notre univers était en train de se stratifier et de se rétrécir. Se stratifier, c'est-à-dire qu'on voyait des gens qui, après cette période merveilleuse qu'on a appelée, après la guerre, les 30 glorieuses, où tout le monde gagnait beaucoup d'argent, je parle de l'Occident naturellement, tout le monde gagnait beaucoup d'argent, avait une vie très facile et était plus tolérant vis-à-vis de l'autre, subitement, cette tolérance a eu tendance à disparaître. Et maintenant, j'ai l'impression qu'elle a presque complètement disparu. Et je pense que c'est un phénomène très grave et que c'est un phénomène qui peut annoncer la guerre, qui l'annonce même certainement. Et je suis devenue femme pour la paix dès le début parce que, subitement, nous avons eu l'exemple des femmes d'Irlande qui... Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à ce moment-là, l'Irlande, c'était le Beyrouth de l'année dernière, si vous voyez ce que je veux dire. On s'assassinait perpétuellement, nuit et jour. On tuait les femmes, les enfants, les jeunes, les vieillards. On tuait absolument tout le monde, aveuglément. C'était vraiment le terrorisme à domicile. Et les femmes ont dit, maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit, nous ne voulons plus être assassinés. Nous ne voulons plus qu'on assassine, nous ne voulons plus qu'on tue nos enfants. Et j'ai trouvé, et elles ont réussi, d'ailleurs je crois qu'elles ont reçu le prix Nobel de la paix, elles ont réussi, les tueries ont diminué, ont presque cessé maintenant, et je pense que c'est à elles que c'est dû. Et c'est un exemple merveilleux, parce que finalement, je pense que c'est aux femmes de dire que ça suffit maintenant, qu'on a assez joué au jeu de la guerre, qu'on a assez joué au jeu de la puissance, que nous avons maintenant eu, nous avons eu un monde régi par les hommes depuis des millénaires, et nous en avons le résultat. Tout le monde a la bombe atomique ou l'aura dans peu de temps. Il y a des centrales nucléaires horriblement dangereuses partout. La pollution s'étend sur toute la planète. Et si nous voulons que l'humanité survive, il faut se battre.
Mais vous avez choisi de réfléchir et d'agir dans un groupe de femmes pour la paix. Est-ce que vous pensez que les femmes ont dans ce domaine quelque chose de spécifique à amener à la lutte ou de différent ?
Oui, je pense qu'elles l'ont. Elles ont cette chose tout à fait fondamentale en elles-mêmes. Non seulement parce qu'elles font des enfants, parce que toutes les femmes ne font pas des enfants et elles sont quand même pacifistes ou écologistes, mais parce que nous sommes peut-être... plus près de la terre, nous sommes plus près de nos réactions. Vous savez, comme tous les gens qui sont minorisés, comme tous les esclaves, nous avons une sensibilité particulière. Et je pense que les femmes ont été esclaves maintenant pendant des millénaires et c'est le moment qu'elles se lèvent et qu'elles disent maintenant nous voulons la paix, nous voulons la justice, et pas seulement des mots, mais nous voulons des actes.
Il y a une femme pacifiste, c'est Odette Thibault, qui a écrit que si nous donnons la vie, si on a la possibilité de donner la vie, on ne peut délibérément pas donner la mort. Qu'est-ce que vous pensez de cette...
Je pense que c'est très optimiste, parce que je pense que les femmes sont virtuellement aussi agressives que les hommes, et que si elles ne le sont pas, franchement, souvent, c'est parce qu'elles n'osent pas. Mais je pense que le jour où elles oseront, si elles imitent les hommes, nous serons très mal partis.
Mais vous pensez que nous, les femmes, nous sommes moins agressives, moins violentes que les hommes pour des raisons biologiques ?
Je pense. Écoutez, je crois qu'on en a des preuves, mais moi, je ne peux pas vous les donner parce que je ne suis pas une scientifique. Mais je pense qu'elles sont à la base, n'est-ce pas ? Les femmes sont... comment vous dire ? Les femmes sont faites pour conserver la vie puisqu'elles la donnent. Et nous sommes atteinte, je mets ça entre guillemets, n'est-ce pas, dans notre corps, nous-mêmes, dès l'époque de la puberté, quand nous avons nos règles, nous prenons notre corps en compte. Ce que les hommes ne font pas, les hommes sont généralement très maladroits avec leur corps, n'est-ce pas ? Ils le connaissent mal. Nous le connaissons bien, et par la force des choses, ça n'est pas un choix, c'est une chose qui nous est imposée par la nature. Ensuite, nous avons des enfants que nous portons 9 mois, ça peut être une corvée, vous savez, de voir son corps déformé, de savoir que ça va finir par un accouchement qui est toujours douloureux malgré tout, si on veut l'assumer vraiment et ne pas être endormi. Ensuite, il faut s'occuper d'un bébé. On sait le nombre de gestes qu'il faut pour faire vivre un enfant. Et ce sont les femmes qui l'assument.
Vous pensez qu'il y a peut-être des causes biologiques, hormonales aussi ?
Et moi, je ne vais pas m'engager sur ce terrain, mais je pense qu'il doit y en avoir. Pas pour l'amour maternel. Je pense que l'amour maternel, c'est une chose qui n'existe pas, dans le sens qu'elle existe chez tout le monde. Alors, ce n'est pas plus maternel qu'autre chose. Par exemple, moi, j'ai eu l'impression, quand j'ai 2 enfants, et quand on m'a mis ces bébés hurleurs, naturellement, puisqu'ils étaient mes enfants, entre mes bras, j'ai eu l'impression qu'on m'aurait mis n'importe quel enfant entre les bras, je les aurais... aimer et soigner comme j'ai soigné les miens. Et je pense que les hommes sont exactement capables du même amour.
Mais alors vous pouvez pas affirmer qu'il y a des raisons vraiment biologiques, mais il y a peut-être des prédispositions, mais qui sont liées à quoi ? Ce sont liées à cette expérience de la maternité. Mais j'ai l'impression que vous ramenez beaucoup les choses à une expérience personnelle.
Écoutez, on ne peut pas faire autrement, parce que c'est très difficile de s'abstraire de soi-même dans ce genre de problème.
Je ne disais pas vous, mais vous ne m'avez pas encore mentionné l'expérience sociale de la maternité. Est-ce que ce n'est pas parce que les femmes, elles font cette expérience-là, parce que c'est leur place dans la société, qu'elles sont là, elles sont près des enfants, elles sont près de la vie, mais pas biologiquement, socialement, qu'elles sont pour la paix, elles sont pour... qu'elles sont plus sensibles à ces questions de la paix.
Oui, je pense que oui. Je ne sais pas si c'est biologique, je ne sais pas si c'est social. Je pense que c'est un mélange de tout. C'est très difficile de faire la part des choses, là. Vous savez, socialement, ça remonte à tellement loin, ouais. n'est-ce pas ? Et dans toutes les sociétés, on n'a jamais... Je pense que les exemples des hommes s'occupant des enfants est extrêmement rare.
Ouais.
Ils sont rares dans la civilisation humaine.
Écoutez Ménage-toi sur Radio Zone 93.8. Vous pouvez nous appeler en direct au 023 50 40 51 41 si vous désirez poser directement une question à Nanick de Rougemont.
Mais en fait, les choses deviennent plus claires si on regarde ce qui se passe du côté des hommes, si on constate que c'est les hommes qui décident de faire la guerre.
Oui, mais évidemment, les hommes... On a tendance à considérer les hommes comme plus agressifs que les femmes. Et je pense qu'ils le sont. Je pense que c'est inné. Mais je ne pense pas qu'il faille les couvrir de tous les péchés du monde. J'entends. Je pense que nous avons aussi, nous, les femmes, ce que les savants appellent le cerveau reptilien. N'est-ce pas ? En principe, nous avons trois cerveaux, dont le cerveau reptilien qui nous sert à la survie, simplement à manger, se défendre, faire l'amour pour avoir des enfants. Ce cerveau reptilien est encore en train de régir toute la planète, n'est-ce pas ? Et on le voit parfaitement bien dans ce qui se passe maintenant. Et on le voit même, c'est très curieux, chez les enfants. Parce que vous mettez des enfants devant la télévision et ils regardent pacifiquement et avec le sourire aux lèvres et en suçant leurs pouces ou en mangeant des cacahuètes, des scènes absolument épouvantables de guerre où les gens sont éclatent avec des bombes, il y a des feux, des histoires absolument. Enfin, les enfants ne bronchent pas. Mais si vous leur montrez un loup, alors subitement, leurs cheveux se hérissent, ils se mettent à hurler, ils sont terrorisés par le loup. Et c'est typique, c'est une réaction du cerveau reptilien, parce que ces enfants ont peu de chances d'être dévorés par des loups, ils ont toutes les chances de recevoir une bombe sur la tête. Or, la bombe ne leur fait pas peur, ce qui leur fait peur, c'est le loup. Donc, il faut avoir cet exemple en tête pour se rendre compte que nous avons toujours cette réaction-là, n'est-ce pas ? Nous sommes en retard de génération en génération dans notre réflexion. Nous réagissons avec notre cerveau reptilien et je dois dire que si on regarde autour de soi, si on écoute les médias, si on écoute la télévision, la radio, si on lit les journaux, c'est toujours ce que j'appelle les va-t-en-guerre, appuient toujours sur la même pédale, n'est-ce pas ? Sur le cerveau reptilien, on est attaqué, on s'arme contre nous, il faut s'armer. C'est à un niveau très infantile.
Mais la cause des guerres, elle est où selon vous ? Pourquoi il y a des guerres ?
La puissance. On veut affirmer sa puissance. Ça, il y a les théories d'Henri Laborie, qui est un génie français, un peu trop méconnu à mon sens. Il est connu, mais pas assez par le grand public, qui a écrit un livre merveilleux qui s'appelle « La colombe assassinée » sur la paix. Il a aussi écrit un livre qui explique toute la façon dont l'Occident se comporte et qui s'appelle « La nouvelle grille ». Et je pense qu'il faut que nous ayons une nouvelle grille pour juger des événements. Nous ne pouvons pas continuer avec la bombe atomique et avec le monde qui nous entoure. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nos parents vivaient il y a 50 ans.
Mais je veux revenir un petit moment sur la différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence et l'agressivité. Et je voulais vous demander si... Bon, il y a une différence sociale. C'est vrai que les hommes, c'est les hommes qui décident de faire la guerre, c'est les hommes qui la font en grande majorité.
Hein? Oui, parce que quand les femmes décident de faire la guerre, comme ça s'est passé dans les Falklands, c'est une femme qui a décidé ça, mais c'est une femme qui devient un homme. Très souvent, les femmes politiques, pour pouvoir d'ailleurs avoir un poste, deviennent des hommes. Et si elles restent des femmes, et elles assument leur féminité, elles restent des femmes et des points de vue de femmes, alors on les traite d'imbéciles. Et on ne leur donne pas de poste important. Nous avons un exemple dans le canton de Genève.
Nous avons une auditrice en ligne, allô?
Votre allô, conversation m'intéresse beaucoup.
Oui.
J'ai deux questions. Quel est votre sentiment vis-à-vis de la protection civile et que pensez-vous que les femmes puissent faire dans ce domaine? Et une autre, est-ce que la solution contre les guerres serait que les hommes portent les enfants? Vous savez qu'on en parle, j'étais tout à fait contre, mais tout d'un coup, ça me donne une autre ouverture, votre conversation. Est-ce oui, que le fait que l'homme soit enceinte et porte l'enfant 9 mois et donne la vie d'une façon différente, mais la donne tout de même, est-ce que ça ne va pas le responsabiliser d'une façon différente?
Oui, alors qui c'est qui veut répondre? Jacqueline, Nanik?
Moi, je veux bien répondre sur le problème de la protection civile. Alors, en effet, les femmes, en particulier à Genève, ont pensé que pour conscientiser les femmes sur les problèmes de l'écologie, en particulier, eh bien, on pourrait leur donner des cours spéciaux à la protection civile, et des cours sur comment naît l'agressivité dans notre personnalité. Vous savez vous-même que les femmes comme les hommes peuvent, enfin, ils ont des pulsions agressives et nous toutes qui sommes au volant, nous le savons. Et lorsque nous devons vivre en société, eh bien, il y a certaines lois psychologiques qu'on peut connaître pour essayer d'apaiser cette agressivité. Et de même pour les questions écologistes comme l'eau, la protection de l'eau, le problème des ordures qui sont en relation, si je peux dire, avec les femmes, ordures ménagères, bien sûr. Vous comprenez dans quel sens je le dis. Et nous pensons qu'il y aurait là peut-être une action toute spéciale à faire grâce aux locaux et aux possibilités de la protection civile.
Est-ce que vous pensez que ça peut être développé, alors?
Oui, nous pensons que ça peut être développé, mais c'est tout un problème parce qu'il faut que la protection civile le veuille bien et nous avons l'impression qu'ils ont peur des femmes.
Oui, parce que le côté militaire domine quand même actuellement.
Ce n'est pas le côté militaire qui domine, mais c'est le côté masculiniste.
Ah, oui, d'accord. Oui.
Qui est proche peut-être du côté militaire, on en a peut-être parlé, mais c'est surtout le côté masculin. Ils ont peur des femmes un peu dynamiques qui ont des choses nouvelles à apporter et qui risquent de troubler leur train-train quotidien.
Oui, voilà. Merci.
Et par rapport à cette idée de si les hommes portaient des enfants.
Oui, alors là, moi, je veux bien répondre là-dessus parce que je trouve que c'est tout de même extrêmement farfelu. Physiologiquement, j'entends, j'ai lu des articles assez bien documentés à ce sujet. D'abord, le jour où vraiment tous les hommes voudront faire des enfants, je crois qu'il n'est pas encore arrivé, c'est pas demain la veille. Ensuite, il semble que ce soit extrêmement dangereux pour l'homme qui ferait une chose pareille, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait complètement changer son système glandulaire. Et vous savez qu'à partir du moment où on commence à travailler dans ces glandes, on arrive à des résultats quelquefois assez ahurissants. Je ne pense pas que ce soit la solution. Je pense que la solution est quand même...